Bonjour à toutes et à tous, Euterpe 12 invite ses muses sur CFM Rodez. C'est une émission proposée par Jean-François Labitte. Salut Jean-François.
Bonjour David, comment vas-tu?
Bah bien, très bien, très heureux de te retrouver en tous les cas pour cette émission.
Et moi aussi.
Euterpe 12 invite ses muses, centrée sur la musicothérapie, ta discipline que l'on rappelle, tu pratiques plus que jamais malgré la retraite.
Oui. Oui, en fait, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps que finalement, comme la musique aura traversé toute mon existence, je pense que ça m'accompagnera jusqu'à la fin, je pense, plus mes engagements, si je peux.
Ouais, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Euterpe 12 invite ses muses, c'est des muses. Aujourd'hui, deux invités dans les studios autour de Jean-François. Bah tiens, Jean-François, je vais te demander de nous présenter ces deux invités qui sont avec nous dans les studios. Honneur aux dames, quand même, évidemment.
Alors, j'ai invité deux personnes qui me sont très chères. Ouais. Et en plus, je souhaitais que cette émission de rentrée éclairait des pratiques que moi je trouve exceptionnelles, qui méritent d'être parlées. Donc, j'ai invité Alban Pilet, qui est musicothérapeute au centre hospitalier Sainte-Marie, qui travaille dans diverses structures. Elle en parlera elle-même. Mm-hmm. Et j'ai invité Pablo, qui est psychologue dans un EHPAD où j'interviens depuis 2 ans à Rignac, qui fait des choses vraiment très intéressantes avec la musique. On a vécu des choses très intéressantes dont on aimerait parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'émission sera centrée sur l'utilisation de la musique pour accompagner les personnes vieillissantes et surtout rester faire en sorte que ces personnes vieillissantes, grâce au bienfait de la musique, restent verticales et sujets.
Bonjour Alban.
Bonjour.
Alban Pillet, donc musicothérapeute, c'est ça?
C'est ça, oui.
Vous exercez sur le département de l'Aveyron?
De l'Aveyron, oui, dans un secteur, Villefranche, Flagnac et Nocelles.
Plusieurs établissements, donc?
Oui, logique.
Et des établissements, puisque aujourd'hui on va s'intéresser aux personnes âgées, voire très âgées, c'est à 100% votre public ou vous en avez d'autres?
C'est plutôt 50-50.
Alban, alors on ne voit pas là, mais à la voix, ça peut tromper d'ailleurs, le son de la voix. Vous êtes toute jeune, hein?
Oui, j'ai 26 ans.
Bravo, félicitations. Comment on devient musicothérapeute? On a envie de devenir un musicothérapeute quand on est une jeune femme du début du 21e siècle?
Ouais, alors j'ai commencé plus par la musique avant la musicothérapie. Quand
même, ouais, d'accord, ouais.
Depuis
ouais.
Toute jeune. Et j'ai été éduquée par un psychiatre aussi. Donc du coup, j'ai allié les deux et
d'accord,
ouais. Voilà, musicothérapeute.
Super. Et alors, musicienne, c'est quoi votre truc à vous?
Alors, je fais du chant lyrique et du violon alto.
Du chant lyrique? D'accord.
Oui.
Et alors, le violon alto, moi, j'y connais rien. Le violon alto, c'est le violon en tout court, non? Ou c'est alors, un violon plus gros?
C'est comme du violon, sauf que c'est plus grave.
D'accord, dans le son.
Dans le son, c'est plus grave. Ouais.
Plus grave. Mais là, niveau taille, c'est un violon.
C'est un poil plus grand que le violon.
Voilà, merci pour l'information. On va apprendre plein de choses dans cette émission. Enfin, moi, en tous les cas, et tous ceux qui nous écoutent. Bonjour, Pablo.
Bonjour.
Pablo Osorio, mais je dois mal le prononcer, Pablo.
C'est bien. Osorio. Ouais.
Vous êtes, alors je ne sais pas en tout cas de langue espagnole, mais je ne sais pas si vous êtes espagnol au fond.
Et je viens d'Espagne. Je suis valencien.
De Valence. Valence,
voilà, au sud de la Catalogne.
Ouais.
Voilà, je suis en Aveyron, en France, depuis 3 ans.
Environ. D'accord. Ça vous plaît?
Oui.
Ça change de Valence quand même.
Hein. Oui, ça change, mais franchement, ça me plaît. C'est ma place.
Très bien. Bon, vous êtes psychologue clinicien, oui. À l'EHPAD des Rosiers à Rignac. Alors, psychologue clinicien, psychologue, on voit un peu. Peut-être pas, on est peut-être un petit peu à côté de la plaque, mais psychologue clinicien, ça correspond à quoi?
Généralement, les psychologues cliniciens sont c'est une famille, entre guillemets, de la psychologie spécialisée en la pathologie et spécialisée surtout dans le suivi thérapeutique. Voilà.
D'accord.
Et moi, particulièrement, je travaille les TCC, la thérapie cognitive comportementale, où on travaille plutôt les comportements. Je néglige pas les émotions, évidemment, mais
ouais.
Pour le dire de façon familiale, on va droit au bout. Alors ça, c'est...
Et quand vous dites je travaille le comportement, c'est les troubles du comportement?
Généralement, oui, mais quand je travaille à la Fouillade en tant que libéral, mes patients, les 80% sont plus de 65 ans.
Ouais.
Alors on travaille généralement les troubles, le contexte d'anxiodépression, anxiodépressive. Et à l'EHPAD, ce sont des personnes plus âgées de 85 ans. Et là-bas, on travaille plutôt par rapport à travailler les points forts devant un problème neurocognitif, généralement Alzheimer, mais pas que l'Alzheimer. Mmh. Épilepsie, démence frontotemporale, corps de Lévy, on va dire, des pathologies vraiment fortes.
D'accord. Et on va y revenir là, parce que vous avez évoqué plusieurs choses intéressantes. On travaille les points forts, tout ça, on va développer dans cette émission. Pablo, vous êtes psychologue clinicien, mais pas musicothérapeute.
Non, je suis musique amateur.
Un musicien amateur, d'accord.
Musicien amateur.
Et vous, c'est quoi, tiens, vous chantez?
Non, je suis la guitare, okay. Et avec les pianos, plus ou moins, depuis que j'ai connu Jean-François surtout. Mais oui, la guitare, depuis que j'avais 12 ans.
Et la musicothérapie, ou ce qu'il y a autour, même dans un sens large, vous l'utilisez régulièrement, de façon systématique dans votre métier, que ce soit en libéral, comme vous l'avez évoqué, ou à l'EHPAD des Rosiers?
Plutôt à l'EHPAD, à l'EHPAD des Rosiers, et à Rignac, et généralement avec les personnes avec des hautes dépendances, et surtout pour travailler, comme je disais avant, les points forts chez les résidents qui ont une démence très évoluée.
Alors Jean-François, on a Alban qui chante, qui joue du violon avant, qui a fait tout ça, de la musique avant de se lancer dans ses études et dans son métier. Pablo, il aime la musique, la guitare, sans doute depuis tout petit. Il faut forcément... aimer la musique et la pratiquer pour devenir musicothérapeute ou exercer dans des domaines où la musique peut aider?
Alors, il y a eu un débat qui a duré plusieurs années, qui m'a beaucoup fatigué. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas la vérité, mais j'ai quand même une idée. C'est que je pense que pour être musicothérapeute, il faut pratiquer la musique, parce qu'il y a une partie de la musicothérapie qui s'appelle la musicothérapie active, où on invite de manière individuelle ou en groupe des patients à pratiquer l'expression sonore, musicale, vocale. Et je vois mal comment quelqu'un qui a zéro notion musicale peut animer ce type de séance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut avoir une relation intime à la musique pour être force de proposition, même quand il s'agit que de faire écouter de la musique. La preuve en est, d'ailleurs, je peux revenir sur les EHPAD, puisque Dieu sait que je vais dans plein d'EHPAD avéronnais, mais aujourd'hui, des fois, je suis scotché quand je vois que, si tu veux, le répertoire musical, pour certains, se réduirait au Secanto, les Esclos et Étoiles des Neiges. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'ai fait un concert dans un EHPAD. Oui. J'étais ravi, on m'avait d'avoir fait venir en tant que musicien, mais pour faire un concert de jazz. Mmh. J'ai rencontré un monsieur qui avait des émotions à tous les morceaux. Je le voyais pleurer, tout ça. Et à la fin, je vais le voir, je dis « Excusez-moi, mais j'ai vu que vous pleuriez à chacun de mes morceaux. » Et le monsieur me dit « J'étais tellement ému, j'adore le jazz, je me suis régalé. Et vous savez, ici, à part l'accordéon, il n'y a rien d'autre. » Et moi, j'adore la musique classique, j'adore le jazz. Et alors là, je me suis rendu compte comment, en 2023, c'est important aujourd'hui d'avoir conscience qu'en 2023, les personnes vieillissantes d'aujourd'hui, et demain je vais être un sujet vieillissant, mes goûts musicaux, c'est pas forcément le Turlututu et Ma Pastourelle, mais ça peut être Pink Floyd, les Beatles et les Stones, quoi. Juste le rappeler.
Eh ben tiens, puisque tu parles de musique, tu es venu avec un certain nombre de morceaux dans cette émission, comme à chaque fois. De la musique, on va en écouter avant de poursuivre cet entretien développé avec Alban Pillet et Pablo Osario, respectivement musicothérapeute et psychologue clinicien. Premier titre, Jean-François, c'était peut-être aussi une surprise à destination, enfin une surprise.
C'est un cadeau, en général, je choisis toujours un morceau musical pour l'offrir à mes invités.
Alors
ce premier cadeau c'est pour Alban.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme cadeau, Alban?
Alors, je lui dis pas, parce que j'ai jamais envie d'endurer des choses, donc je lui offre le cadeau et après elle me dira comment elle l'a reçu.
On en parle juste après dans le Terpe 12 Invite Sémus sur CFM Rhodes.
Sur mes hanches là qui sont pour toi, tes deux mains se balancent autour de moi. Je suis portée par un centaure, jamais je ne suis seule quand la ville dort. Je suis portée par un centaure, jamais je ne suis seule quand la ville dort. Je suis un aéroport et je plane. Tu es une une course folle qui s'étale. Nos quatre mains claquent et tournent dans le vent. Jamais je n'aurais cru dire ces mots simplement. Je suis portée par un centaure. Jamais je ne suis seule. Sauter au cou. Je suis portée par un centaure. Jamais je ne suis seule quand la ville dort. Depuis ses bras qui m'entourent. Jamais je ne suis seule quand la ville dort.
CFM Rhodes Terpe 12 invite ses muses et une première chanson, hein, puisqu'une une musique choisie par Jean-François Labitte et qui était le cadeau à destination d'Alban, l'une des deux muses de Terpe 12 invite ses muses aujourd'hui sur CFM Rhodes. Alban, ça vous a plu ou pas?
Ah oui, mais j'aime beaucoup, je ne connaissais pas du tout, donc merci pour ce cadeau.
Alors pourtant, ce n'est pas trop votre style, vous, puisque vous faites de la musique, en dehors de votre métier de musicothérapeute, vous êtes chanteuse lyrique, là, ça n'était pas trop lyrique.
Non, mais ça peut s'en rapprocher finalement, parce qu'elle a une voix très particulière,
ouais.
Et il y a un mélange de styles musicaux, je trouve, dans cette musique qui est intéressant et qui stimule quand même pas mal.
Non, pas dire, on va revenir dans un instant. Jean-François, parce que c'était qui, quand même? Rendons à César, Rine ou...
Daphné.
Pardon?
Elle s'appelle Daphné, la chanteuse.
D'accord, c'est récent comme titre, moi je connaissais pas du tout.
C'est une dizaine d'années.
Ah oui, oui.
J'adore cette chanteuse parce que tu sais, elle a fait un album où il y a, je sais plus, 14 titres, je crois, de sur celui-là en tout cas.
D'accord.
Et c'est que ce sont que des chansons qui stimulent l'imaginaire en fait.
Ouais, moi c'est
un petit peu. On peut voir plein de tableaux qui défilent. Mmh. Et en plus, je trouve qu'il y a une... Là où il y a un peu un génie créatif dans cette chanson, c'est que d'une part, on a affaire à une valse lente qui se rappelle, qui est plus proche d'ailleurs de ce qu'on appelle le Boston, c'est-à-dire la valse la plus lente qui existe.
Ouais.
Et du coup, comme c'est lent, on a l'impression d'un manège.
Un manège, ça m'a fait penser à un manège.
Et de quelque chose qui justement défile. Ouais. Et ça, je trouve ça super intéressant.
Euterpe 12 invite ses muses. Le thème pour ce numéro de rentrée, c'est musicothérapie et soins aux aînés. Vous, Alban Pillet, vous êtes musicothérapeute. Pote, et vous exercez aux établissements Sainte-Marie à plusieurs endroits de l'Aveyron, mais vous n'êtes pas qu'auprès des populations des aînés, hein, c'est pour ça que je m'adresse à vous. La musicothérapie et cette musique en particulier, par exemple, hein, cette chanson, elle peut aller aussi bien à des aînés qu'à des gens plus jeunes. Il y a des différences entre les publics ou...
Ça va dépendre déjà de la personne, en fait.
Ah, ouais, d'accord.
Plus que de l'âge,
oui.
Et de sa pathologie et... En fait, de comment s'articule la séance et les besoins de la personne, en fait.
Et alors, mais comment vous évaluez, vous, les besoins et un peu les goûts, ce qui pourrait correspondre à une personne?
En général, j'ai un entretien au tout début. Je discute avec la personne pour juste savoir son environnement, son air passé et actuel.
Et alors là, par exemple, d'apnée, ça pourrait coller à certaines de vos pratiques?
Oui, j'ai déjà pas mal de personnes en tête. Oui.
Ah bon? D'accord. Ouais. La musicothérapie, on parle des soins aux aînés. La musicothérapie, alors je m'adresse à Alban, mais Pablo, évidemment, vous pouvez aussi répondre, et Jean-François, pareil. C'est bien fait, son intérêt, il est plus fort auprès des personnes âgées, pour je ne sais quelle raison, ou pas particulièrement?
Ah, c'est pas une question d'âge.
Non, c'est pas une question d'âge.
Non, non, non. Non, parce que j'ai eu des personnes jeunes avec qui j'ai fait un gros travail, où il y a eu des bienfaits, et c'était pas une question d'âge, quoi.
Ça marche pas plus avec des personnes âgées, pour tout un tas de raisons qui me dépassent, mais qui pour vous seraient évidentes?
Non, ça dépend juste de ce qu'on veut travailler, et avec la personne, quoi.
Si tu permets, David, ouais. Je voudrais juste te dire, oui, qu'effectivement, quand même, l'être humain, il faut savoir que quand même, on est déjà formaté, sculpté par la musique au troisième mois in utero.
Ouais.
Et ça veut dire que tout être humain, je trouve que c'est là l'intérêt d'ailleurs de la musique, ça veut dire que tout être humain est sensible du troisième mois in utero à 85, 95, 100, aux vibrations sonores, puisqu'on est sculpté par le son. On est sculpté avant la naissance par le son. Mmh. On est sculpté quand on est, si on poussait pas ce cri premier, on serait mort. Ce qui fait qu'on est vivant, c'est qu'on a poussé ce cri qui nous a amené à exister. Et c'est ce qui fait la richesse, en fait, de la musique avec toutes les personnes, en fait.
Mmh. Pablo Osorio, je rappelle que vous êtes, vous, psychologue clinicien à l'EHPAD des Rosiers à Reignac, donc dans un EHPAD, là, c'est uniquement des personnes âgées, évidemment. Mais bon, vous n'êtes pas spécifiquement musicothérapeute à la base. Dans quelle mesure et pourquoi vous utilisez ça?
Oui, pour rejoindre mes collègues, justement,
ouais.
Et je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que quand quelqu'un a une démence très évoluée, je pense plutôt à la démence frontotemporale parce que c'est la démence qui attaque plutôt la personnalité ou plutôt les facteurs de verbalisation. Quand les psychologues ou quand les thérapeutes ne peuvent pas arriver, la musique va nous soutenir.
Ah, d'accord.
Ça, c'est franchement à niveau émotionnel, à niveau non-verbal. Le fait de dire, quand un résident, on voit que, bon, je veux pas entrer en détail, mais on voit qu'il a perdu sa personnalité, qu'il commence à avoir une personnalité différente, commence à voir qu'il peut pas même articuler des mots, il est conscient finalement qu'il a perdu ses capacités, la musique peut nous aider. Et la musique peut arriver jusqu'à où les thérapeutes, les spécialistes ne peuvent pas arriver. Non. Alors, par rapport à ça, je pense que la musique, c'est un allié que les thérapeutes peuvent avoir. Et je l'utilise les 100% des fois avec des personnes âgées,
ouais.
Pas qu'avec des démences, ça c'est évident. Parce qu'en fait, au groupe de musicothérapie du mardi, avec Jean-François, on a des résidents, on va dire, plutôt autonomes, parfois aussi. Mais la musique, c'est comme un allié, c'est comme une amie qui est là pour aider quand... Je ne suis pas fortement proche à l'hémostimulation, je préfère la réhabilitation, mais c'est grâce à la musique et grâce à justement les régions cérébrales qui peut les articuler qu'on peut aider, justement.
Et vous diriez, dans votre pratique, que la musique, elle peut aider de façon quasiment universelle, c'est-à-dire c'est... alors moi, j'y connais rien en biologie, en physiologie, mais pour des raisons physiologiques ou physiques, ça marche plus ou moins, mais ça marche sur tout le monde, d'une façon ou d'une autre.
Oui et non.
Ouais.
Je vois pour en tant que clinicien, en tant que TCC, de thérapie comportementale, je vois qu'il y a des résidents ou des patients qui sont plus proches à la musique,
ouais,
que d'autres. Je pense que c'est par rapport justement à la composition cérébrale. Il y a des personnes qui peut-être la frontotemporale ou la temporale, c'est plus ou moins évolué, mais je pense à notre résidente épileptique, Jean-François, et comme elle réagit quand elle écoute les ré majeurs. Ou comme elle réagit quand elle écoute des chansons qu'on a composé pour elle. Et franchement, il est à disposition. Et parfois, il y a des résidents qui oui, ils peuvent réagir à ses cantos, ils peuvent réagir à des choses, on va dire, des mémoires autobiographiques, mais qu'ils ne réagissent pas à quelque chose de plus spécifique ou plus spécialisé.
Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant du ré majeur?
Le ré majeur, on l'a vu, pour essai erreur, j'ai une...
C'est le ré majeur, donc c'est une note.
Oui.
Ok.
Donc voilà.
Une tonalité,
mais on peut la moduler.
Okay.
Et on a vu, il y a de la littérature. Pour avant, on avait travaillé justement cette littérature pour voir que le ré majeur, c'est une tonalité qui travaille très bien pour épicer ou pour traiter même une crise épileptique ou pour prévenir une crise épileptique. J'ai une résidente à l'EHPAD de Reignac avec cette problématique. C'est vrai qu'il faut soutenir avec les traitements pharma. C'est vrai qu'il faut. Même avec des contentions, machin. Mais c'est vrai que si on soutient tout ce travail avec une approche, on va dire, plus émotionnelle avec les ré majeurs et surtout avec la routine de le faire tous les jours à la même heure, un peu apaisé, un peu soulager la symptomatologie indésirable.
Alors là, si tu permets, David, je voudrais juste intervenir parce que il raconte ça, Pablo, et au début, Pablo, il connaissait mon côté très critique sur l'indication de la musique comme un médicament. Parce qu'il y avait un bouquin qui existe qui s'appelle La biomusicothérapie, qui a été écrit par deux personnages qui sont des gens reconnus scientifiquement, qui, quand on lit le bouquin, c'est affligeant parce qu'on croirait que parce que ils écrivent que c'était du signe de la Vierge, je sais pas quoi et je sais pas quoi. Donc il te faut écouter ça.
Ce que tu veux dire, ouais. Si tu veux.
Donc quand Pablo me raconte ça, je dis de suite à Pablo que j'étais réticent avec ce genre d'idées. Mais ce qui m'a intéressé, c'est la pensée neuroscientifique. Je me suis dit que peut-être cette dame épileptique, ce qui fait que ça fonctionne bien le ré majeur, c'est parce qu'elle est sensible au niveau vibratoire. Puisque le ré majeur, ça provoque des fréquences spécifiques et que peut-être dans ce cadre-là, son cerveau, il y a quelque chose qui se passe qui l'apaise.
Donc ouais, c'est pas le ré majeur, c'est plutôt son cerveau qui est...
Pour quelqu'un d'autre, ça sera un do mineur ou je ne sais quoi. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est que moi, d'abord, quand Pablo me l'a dit, j'ai un peu rayonné, j'ai dit, bah, Pablo, c'est génial, c'est un mec génial.
Mais, il est gentil, Pablo, c'est un jeune homme.
Mais dans la séance, quand la dame a commencé à s'agiter, à faire une crise, et là, donc Pablo, il me fait un clin d'œil, il me dit, il m'avait envoyé la partition des deux notes.
Écrit même, oui.
Et je joue ça. Ouais. Et je vois la dame, au fur et à mesure que je jouais ça en boucle, qui s'apaisait. Quoi. Ah, voilà. Donc la première fois, ça me fait rire un peu.
Ouais, on se dit
et en même temps, je me dis, mince, il y a un truc qui se passe. Ouais. Elle refait, une demi-heure après, elle refait la même crise. Pablo me refait un clin d'œil. Donc je peux refaire ça, et là, même truc. Ça s'est passé trois fois. Donc du coup, j'ai pensé à un vieux maître qui me dit, la première fois, tu peux croire que c'est un hasard. La deuxième fois, c'est encore un hasard. La troisième fois, quand même, t'es obligé de te poser des questions.
Te dire qu'il y a quelque chose. Ouais. Alban, vous êtes musicothérapeute. Vous exercez dans différents établissements, mais comme vous êtes toute jeune, vous m'avez dit 26 ans.
Hein, oui.
Ok, très bien. Donc vous poursuivez des études et vous avez entamé un diplôme universitaire de neuromusicothérapie.
Oui.
Et là, justement, je reviens au même sujet. Alors moi, je n'y connais rien. Je ne sais même pas si ça se trouve, je vous dis une connerie. Pour moi, neuro, c'est de la science. On étudie le cerveau. Par rapport à ce que disait Pablo, vous êtes d'accord ?
Oui. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien parler de l'idée que l'avantage, quand on écoute de la musique ou quand on joue de la musique, il y a toutes les parties du cerveau, en fait, qui sont un peu stimulées. Mmh. Et c'est ce qui nous permet justement de pouvoir travailler sur plein de choses. Donc, au niveau de la mémoire, au niveau de la motricité, tout ça, en fait, le langage, l'apprentissage et tout ça. Tout ça, on peut le travailler parce que la musique stimule plusieurs zones en même temps.
Et donc ça, c'est scientifiquement, entre guillemets, établi, quoi. C'est pas du délire ou
il y a des études qui commencent,
où on peut dire, ouais, c'est vrai, ça arrive à chaque fois, donc on peut conclure que ça marche, mais sans vraiment savoir.
Il y a des études qui commencent à sortir un peu par rapport à ça, justement.
Mm-hmm. Il y a un excellent livre qui est sorti maintenant, il y a plusieurs années, d'un neurologue américain là, qui s'appelle Oliver Sacks, qui s'appelle Musicophilia, d'ailleurs, à l'époque, quand ce livre est sorti, ça s'est vendu dans le monde entier. Parce que l'avantage de Oliver Sacks, d'une part, il était musicien, il s'intéressait à la musique, d'autre part, il était chercheur, et il avait accès à des IRM immédiats, d'écoutant des doutes d'auditeurs de la musique. Donc, on voit, par exemple, chez des personnes âgées, vieillissantes, chez des personnes, il fait des IRM de personnes qui écoutent de la musique, et là, ça rejoint ce que dit Pablo. Et aussi ce que dit Alban, c'est qu'on voit les zones, plein de zones du cerveau qui s'allument à l'IRM. La zone motrice, les zones cognitives, les zones de la mémoire, les zones de la parole et tout ça. Et donc lui, il écrit, pour terminer, que la musicophilia, il écrit que la stimulation musicale crée un véritable feu d'artifice cérébral qu'on peut utiliser.
D'accord. Pour donner l'exemple, vous avez sûrement vu passer la vidéo de la personne âgée qui était ancienne ballerine. Qui écoute le lac des signes.
Ah oui, c'était
il y a quelques années. Et qui commence à reproduire.
Oui, je me rappelle de ça avant le Covid.
Donc ça, c'est un bel exemple visuel de ce que ça peut créer.
Il y a un autre truc qui circulait aussi d'un pianiste âgé, black, et qui jouait qui d'un coup se remettait à jouer des plans de jazz, quoi, alors qu'il avait 92 ans, qu'il était Alzheimer plus.
Et alors tiens, d'ailleurs, ça rejoint ce que vous avez dit juste avant, là, Alban. Vous avez parlé d'écouter de la musique et de jouer de la musique. Et c'est vrai que c'est deux aspects. Alors peut-être toutes les personnes âgées peuvent pas jouer de la musique, même ne serait-ce que quelques notes, mais c'est vrai que ce sont deux choses différentes, qui ont donc aussi un intérêt et une utilisation différente, en fonction des personnes, ou pas ?
Alors oui et non. Enfin,
ouais.
Je suis un peu partagée parce que moi j'aime bien mélanger les deux.
D'accord. Ouais.
Je mes sens c'est un peu musicothérapie réceptive donc écoute et musicothérapie active. Moi je joue et des fois je fais même les deux donc.
Et alors qu'est-ce que apporte l'un et que n'apporte pas l'autre et vice versa entre la pratique et l'écoute.
Alors ben l'écoute il y a moins de mobilisation du corps finalement.
Ouais.
Et que l'active, il y a un peu tout qui travaille, quoi.
Et alors, c'est quoi, dans quelle mesure, vous, avec telle ou telle personne, vous allez accentuer sur la pratique ou au contraire, accentuer sur l'écoute? Bon, ça peut être juste pour des questions de physique.
Moi,
hein,
par exemple, pour les personnes dépressives,
oui,
je préfère justement faire très peu de réceptifs et beaucoup d'actifs.
D'accord. Pablo? Parce qu'elle avait l'air de dire quelque chose qui était discuté dans vos domaines. Alban, vous êtes pas d'accord? Si vous êtes d'accord avec,
oui, tout à fait.
Avec Alban?
Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, je suis pour justement l'intervention chez quelqu'un dépressif. Et ça rejoint un petit peu la entre guillemets critique que j'ai fait à l'émotionnalité. Je vois que parfois il y a un abus d'émotionnalité, de dire quelle émotion tu ressens continuellement. Mmh. Et quand quelqu'un est dans un contexte anxio-dépressif, parfois il faut plutôt intervenir que lui demander quelle émotion tu ressens. Alors justement, j'ai rejoint Alban par rapport à ça, non? Le fait de le thérapeute doit être actif aussi, il doit réagir. C'est pas simplement comme boucher les stylos, dire ah bon, l'émotion c'est intéressante. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'en musicothérapie, parfois il faut être part active par rapport à ça. Et justement, par rapport à la région cérébrale, j'ai rejoint Jean-François et Alban tout à fait parce qu'en fait, on travaille aussi les noyaux suprachiasmatiques pour éviter la chute.
On travaille quoi
les noyaux suprachiasmatiques à l'hypothalamus. Bon, ça c'est une petite région qui provoque la mélatonine. Et pour les personnes avec Alzheimer ou avec démence très évoluée,
oui.
Quand il y a de l'agitation vespérale ou des syndromes crépusculaires, ça veut dire agitation en fin de journée.
D'accord.
Et c'est, moi particulièrement, je suis en train de travailler ça. Les matins, source de lumière à 300 lux, pas plus, hein, avec une musicalité adaptée, soit do majeur pour les dépressifs, soit sol majeur pour les personnes qu'il faut stimuler, entre guillemets, en même temps que la lumière. D'où se stimuler des renforcements pendant la journée et avant justement que l'apparition de l'agitation arrive, quelle stimulation musicale sans la lumière, parce que la lumière il faut la faire le matin. Alors évidemment, oui, il y a littérature qui montre, comme disait avant Jean-François, non, qu'il y a comme une explosion cérébrale, je ne sais pas qu'on utilise la musique, tout à fait d'accord évidemment.
Après, ce qui est intéressant dans ce que souligne Alban, je trouve ça, parce qu'en fait il y a les deux aspects de la musicothérapie. On pourrait penser, et je suis vraiment d'accord avec Alban, que pour par exemple des sujets dépressifs, la musicothérapie réceptive, écouter de la musique, faire parler des associations, de ce que la musique peut suggérer, on peut en parler, mais comme souvent ce sont des gens qui tournent en rond dans leurs angoisses, dans leurs mouvements dépressifs, le fait de les inviter, et c'est ça que je trouve super intéressant, à faire un pas de côté, à être dans une dynamique d'expression, qu'elle soit expression sonore, vocale, corporelle, et d'être dans un moment d'invitation à développer sa créativité. La créativité, c'est un mouvement de vie. Et c'est ça que je trouve intéressant par rapport à la dépression. Parce que la dépression, on a l'impression que la vie, elle est en pause. Et le fait qu'un musicothérapeute active ce mouvement de vie fait qu'on peut, petit à petit, on voit des redressements au niveau de la dépression. Ça, c'est vraiment super intéressant.
Après le cadeau musical à Alban, il y a quelques instants, au début d'émission, dans Terpedouze, invite Sémi sur CFM Rodez. Bah, on va passer au cadeau à Pablo, lui aussi, il y a droit, Jean-François.
Eh bien sûr que
qu'est-ce
oui.
Qu'est-ce que tu lui as réservé?
Je le dirai après, alors.
Ah, bon, bon, Pablo, on y va. Non, j'ai pas d'infos, donc ça va être la surprise pour moi aussi.
D'accord.
Et on revient juste après sur CFM Rodez. Thank you. CFM Rhodes. Alors moi qui n'y connais rien en musique, qui n'ai qu'une oreille très approximative, Jean-François, j'aurais envie de te dire, oui, Pablo, il est espagnol. Là, pour moi, ça évoque de la musique espagnole, mais si ça se trouve, tu vas me dire que c'est pas du tout ça le rapport.
Ouais. Je pourrais te dire ça effectivement parce qu'en fait, à part la guitare qui est quand même un instrument qu'on trouve beaucoup en Espagne, plus une culture autour de la guitare remarquable, ça c'était un clin d'œil pour la guitare, mais après ce que je trouvais intéressant c'est le musicien Roland Diens. Qui est plus là aujourd'hui, mais quand on l'entend, il a écrit des pièces classiques où on a l'impression que quand on l'écoute, enfin la première fois que je l'ai découvert ce musicien, on a l'impression qu'ils sont deux à jouer tellement il y a une richesse musicale, une espèce de finesse. Et en fait, là, il a réarrangé un morceau de Jacques Brel quand même.
Ah, d'accord, ok.
Ouais, ça s'appelle, c'est la chanson des vieux amants en fait.
Ah, pff, je suis nul.
Et alors, elle a un lien avec le travail qu'on fait avec Pablo, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on travaille avec un groupe de personnes à l'EHPAD des Rosiers Arignac, où justement ces personnes sont en grande perte d'habileté psychosociale, souvent en proie à des mouvements dépressifs hyper isolés. Et le travail qu'on fait avec Pablo, c'est un travail de stimulation avec la musique, mais un travail aussi de redressement, parfois aussi au niveau cognitif de stimulation. Et là, par exemple, un morceau comme ça, au-delà de l'aspect classico, guitare, espagnol et compagnie, il y a plein de gens de ce groupe qui reconnaîtraient le morceau et qui diraient que c'est Brel.
Parce que c'était ma question, ça allait être ma question justement à Pablo. Ça vous a plu déjà le...
Coup touché, merci Jean-François.
Bon, vous connaissiez déjà ou pas?
Non, je l'ai entendu à Port-Vent, mais ouais, ça
vous plaît.
Mes réchouins à mes racines.
Et alors donc Jean-François a l'air de dire, moi c'était aussi ma question, est-ce que cette musique-là, par exemple, trouverait sa place dans votre pratique à l'EHPAD des Rosiers? Et s'il trouverait sa place, ça serait à quelle place?
Dans la place de réhabilitation cognitive. Surtout pour prévention, généralement, d'agitation.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous...
Si on l'a fait en procéduralisation, ça veut dire si on l'a fait en routine. C'est un petit peu comme un traitement pharma. Il ne faut pas aller par 30 jours et après, non.
D'accord. Ouais, c'est vraiment installé.
Je travaille plutôt ça. Voilà.
La régularité...
Tout à fait. Pour moi, ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça que je pense qu'une institution, il faut être 3 jours, 4 jours d'affilée, parce que sinon, une semaine, parce que sinon, c'est très compliqué. La routine, c'est quelque chose pour la réhabilitation ou pour la révalidation cognitive.
Et je veux vraiment appuyer ce que dit Pablo, parce que par exemple, pour avoir mené 2-3 études sur quasiment plusieurs années d'ailleurs, la notion, la dimension, la notion de rituel, elle est super importante. Et en plus, elle est super importante, pas que dans des troubles neurodégénératifs. La notion de rituel, elle est importante quand on veut travailler, par exemple, musique et relaxation chez des gens douloureux, des personnes douloureuses, musique et relaxation, par exemple, chez des gens qui ont des problèmes de stress, angoisse, anxiété. On l'a vu il y a quelques années, on a mené un travail musicothérapie, accompagnement aux troubles, des troubles du sommeil. Eh ben, on s'est rendu compte que chez les personnes qui étaient réceptives à la musique, qui respectaient le rituel, c'est-à-dire qui travaillaient tous les jours à se poser, se centrer sur le souffle et mettre en place les protocoles musicaux, ça marchait. Les gens qui changent tous les 4 matins, qui font ça à la petite semaine, ça ne marche pas. Mais c'est comme de tout. Parce qu'à un moment donné, là j'en reviens au cerveau, le cerveau il a besoin d'habitude, de rituel, parce qu'il envoie des signaux dans le corps et que par exemple la détente, c'est une mécanique. Tant que le cerveau à pas adopter ce process pour envoyer le relâchement dans le corps, je veux dire, on peut faire tout ce qu'on veut, ça marche pas. Par contre, le jour où ça marche, où le cerveau il reconnaît le signal qui va induire la détente, ben je veux dire, c'est gagné. C'est-à-dire que chaque fois qu'il entendra ce signal, si je suis allongé, ça va arriver la détente. Oui. Et ça, c'est il faut le savoir en fait.
Pour illustrer ça justement, j'ai maintenant une résidente dont je travaille avec les stimuli. Et l'autre jour, bon, c'est une démence frontotemporale avancée, à niveau verbal, parfois elle ne peut même pas parler.
Ouais.
Mais je vais tous les jours à sa chambre à 10h30. L'autre jour, je suis retardé à moins quart, à moins l'écart. Elle me regarde, me dit, tu étais où?
C'est extraordinaire.
J'ai perdu les repères, j'ai perdu même ma personnalité, j'ai perdu beaucoup de choses qui m'identifient en tant qu'entre guillemets. Hein.
Ouais.
Mais tu étais où? En disant, j'ai pas ma dose de musique aujourd'hui. Ouais. Hein, et ça c'est excellent. Hein.
Pablo, vous avez évoqué le terme, alors en plus je ne vais même pas retrouver à bien formuler, le terme de réhabilitation.
Réhabilitation ou révalidation cognitive.
Ouais, alors ça veut dire, parce que réhabilitation pour un immeuble, on voit à peu près, tu vois. Mais pour quelqu'un, ça correspond à quoi?
Ça c'est justement travailler les points forts. Je crois que nous sommes dans un système global, hein, à niveau économique, à niveau psychiatrique, à niveau très compétitif, oui. Avec beaucoup de manque d'humanité, beaucoup de manque de compréhension et beaucoup de manque d'empathie. On va travailler toujours le point faible.
Ah bon, c'est la conclusion que tu tires de notre société ?
Oui, j'ai fait un lien. Ah ouais, j'ai fait un lien parce que si on ne fait pas un lien avec notre réalité psychosociale, on ne peut pas travailler. Non, et je pense que le thérapeute, il doit être très conscient de en quel monde il habite. Non, et je vois généralement qu'il y a beaucoup de stimulation justement ou d'entraînement. Je suis contre d'abord avec les concepts de stimulation et d'entraînement. Je préfère travailler la réhabilitation. Pourquoi ? Parce que la réhabilitation va travailler les points forts. Et ça, c'est applicable à un enfant de 3 ans ou à quelqu'un avec une démence, un problème neurodégénératif de 90. Pourquoi ? Parce que moi-même, hein, je vais faire une confession, quand j'étais petit, et la directrice, on va dire post-franquiste, très autoritaire, a parlé avec ma mère pour dire « Votre fils est toujours avec la guitare et toujours avec la flûte, il est nul en mathématiques. » Qu'est-ce qu'elle a fait les systèmes ? Ils m'ont obligé à travailler les mathématiques. Ouais. Ils m'ont interdit jouer la musique. Non ? Alors, justement ça. Avec la personne âgée.
Ouais, mais
âgée.
Du coup, vous êtes devenu psychologue.
Oui, mais ça va.
Ouais, ça va. Il n'y a pas
mais,
de mal.
Mais c'est vrai que si on applique ça au système actuel, je le vois généralement en institution. Je vois, alors, on va travailler la mémoire immédiate. C'est qui le président de la France ? Et tu vois que les récents disent Pompidou. Ouais. Non, mais c'est machin, c'est pas Pompidou, c'est Macron. Et tu vois que la personne commence à entrer dans son état confusionnel. Moi, je travaille justement le contraire, les points forts, la capacité préservée. Ça veut dire les facteurs optimes de la personne.
D'accord. C'est-à-dire qu'une personne qui a perdu une capacité quelconque, hop, vous laissez tomber, excusez-moi l'expression, quoi.
Voilà.
Par contre, sur ce qui fonctionne encore, c'est sur ça que vous travaillez.
Voilà.
C'est intéressant, ça. Moi, je.
Et qu'est-ce qui marche généralement ? La dernière mémoire qu'on perd, c'est la mémoire autobiographique.
Ouais, pas lointaine.
Voilà. Ouais. Pas traumatogène, parce que sinon, ça peut être compliqué. Mmh. Ou la mémoire procédurale. Ça veut dire, parfois, je parle avec la mémoire, que, comment conduire un tracteur.
Ouais,
je le fais avec des. Alors, mais c'est machin, comment conduire son tracteur ? Vous voyez que la personne est angoissée parce que quelqu'un lui a demandé quelque chose. Qu'est-ce que vous venez de manger ? Je ne me souviens pas. Ah, comment vous ne vous souvenez pas ? Non. Non, je travaille. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on fait pour conduire un tracteur ? Parce que je ne le sais pas. Ah. Ou est-ce que vous pouvez me parler occitan ? Parce que je ne parlais pas occitan. Alors, on voit que cette personne a une révalidation. Et il y a
je comprends.
Une force pour soi-même en disant, non, je suis encore utile. Il y a un gamin de 40 ans qui me demande comment on amène un tracteur parce qu'il ne sait pas le faire. Ça veut dire travailler les points forts.
D'accord. Et ça c'est pas ce qui est le plus courant, si je comprends bien.
Ce que veut dire Pablo, ouais. Et vraiment, je partage, comme moi j'ai passé 40 ans dans le milieu hospitalier. Donc,
Parce que à la base, moi c'est vrai, moi, mon truc, je n'y connaissant rien. Et on se dit, bon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sur ça qu'on travaille pour que ça aille mieux. Non, Pablo, il dit non. On va sur ce qui reste de continuer de bien fonctionner pour.
Pablo, ce qu'il développe comme idée que je trouve toujours intéressante et avoir ça en tête, on apprend ça aussi en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire est-ce qu'on se visse au problème ? Et je partage son point de vue dans ce pays, plus que d'autres, on se visse au problème et parfois on oublie de travailler aux solutions et surtout on oublie de travailler du côté des ressources. J'ai un exemple très concret qui rejoint ce que dit Pablo. Dans une structure, on a fait une étude dans un pôle d'Alzheimer avec des personnes très, très invalidées par la maladie. Et toujours, j'ai cette obsession quand je rencontre les gens. C'est-à-dire, je m'appelle Jean-François et vous vous appelez comment ? Et il y a un monsieur, il me regarde à l'arrêt complet. Il ne pouvait pas dire son prénom. Et on me dit, il ne peut pas dire son prénom. Alors moi, je le regarde, je dis, est-ce que ça vous ferait plaisir que je vous apprenne à dire votre prénom ? Parce que le prénom, c'est quand même ce qui nous fonde et qui nous positionne le sujet. Et ce monsieur, il s'appelait X, et on a travaillé voyelle après voyelle son prénom avec le souffle et la voix, puisqu'en fait, on me disait qu'il ne pouvait pas dire le prénom, sauf que moi, il peut faire des sons.
Ouais,
donc
ouais.
Je lui rappelle que son prénom, c'est ça.
C'est des sons.
Ouais. Je lui fais travailler, et au bout d'un quart d'heure, il disait son prénom. Et chaque fois que j'arrivais, je disais, je m'appelle Jean-François, et vous appelez comment ? Et il me disait son prénom.
Voilà. Alban, vous, dans votre pratique, c'est un peu comme Pablo, ou tout n'est pas si simple ?
À l'EHPAD, c'est pas vraiment si simple.
Oui. Ouais, c'est-à-dire ?
C'est l'équipe soignante a du mal un peu à visualiser ce que c'est la musicothérapie.
Ouais.
Donc ça me frustre un petit peu parce qu'il y a plein de choses que je pourrais faire et proposer, notamment l'aide aux soins qui peuvent être compliqués, donc décentraliser l'attention pour que les soignants puissent faire leurs soins.
Ah, décentraliser l'attention, c'est-à-dire je te fais un bruit à gauche pour attirer ton attention.
Oui, ou pas forcément un bruit, mais en gros, je happe un peu le regard de la personne et par des petits trucs et bon.
Mais sinon, alors oui, alors l'équipe soignante, d'ailleurs, on va en parler, les autres professionnels qui sont autour de vous, hein. Il n'y a pas que des musicothérapeutes dans les établissements, ça te marre évidemment, vous travaillez. Et puis aussi même les familles, il n'y a pas aussi un peu cette pression-là de quelqu'un, il y a quelqu'un de sa famille, sa mère, sa grand-mère qui est dans une situation pas facile dans un établissement, sur tel ou tel point. Elle, peut-être dans sa tête, elle se dit, bah, je voudrais l'avoir retrouvé des capacités qu'elle a perdues. Et bah, vous, ça doit être compliqué d'expliquer que bah, non, on ne va pas faire ça. Quoi.
Mais en fait, je n'ai pas trop de contact avec les familles, malheureusement.
D'accord. Ah ouais. Ah, c'est des personnes vraiment isolées, alors, pour le coup.
Mais ouais. Oui, oui, mais on est un peu tout seul avec sa guitare, finalement. Et...
la pauvre, la malheureuse.
Mais Alban a raison, parce que vraiment, ce qu'elle décrit, moi, je l'ai connue 33 ans plus tôt. Mmh. Et je réalise aujourd'hui que je vieillis, j'ai le temps de penser à des trucs. Je me dis que le problème de des musicothérapeutes, c'est que la musique, comme c'est associé à la majorité, dans la tête des gens, au festif,
ouais,
aller boire un coup, une petite chopinette et tout ça. Donc tout le monde croit que le musicothérapeute, c'est l'amuseur 5 étoiles, le public. Donc personne n'imagine qu'ils oublient, ils ont complètement oublié les thérapeutes. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de répondre à des indications, on peut apporter des solutions. Dans ce que dit Alban, par exemple, moi j'ai un infirmier dont j'avais été directeur de mémoire, il avait mis en place un protocole. Dans un EHPAD où il en avait marre des résistances aux toilettes, il disait on peut pas passer notre temps à faire des bras de fer, on n'a pas le temps. Il s'était rendu compte que comme il jouait de l'accordéon très bien et que des mamies adoraient l'accordéon, il venait avec son téléphone et il mettait des trucs d'accordéon. Et là d'un coup, la mamie venait avec lui, il chantait un truc connu, le dénicheur je sais pas quoi ou autre, et ils allaient à la toilette, ça se passait nickel. Il a fait un mémoire sur comment utiliser la musique et les goûts des personnes pour lever les résistances à la toilette ou des choses comme ça. Et ça, c'est des choses, tu vois, hyper qui demandent pas des milliers d'euros et qui permettent de travailler dans de meilleures conditions et pour tout le monde.
Alors vous, Alban, vous êtes musicothérapeute, c'est vrai que déjà pour le grand public, c'est pas forcément évident comme discipline. Deux, vous êtes une femme aussi. Trois, vous avez 26 ans. Et ce que je comprends, c'est que dans les établissements où vous travaillez, même les professionnels ne vous considèrent pas vraiment comme un confrère. C'est compliqué parfois de faire sa place quand on est dans
votre situation. Tout à fait. Ouais, déjà, je suis prise un peu comme une animatrice.
Ah ouais.
Donc, pour la petite anecdote...
Mais même par les médecins et tout, quoi. Ou l'encadrement, la direction, les établissements.
Surtout le personnel soignant.
Ah ouais.
Parce qu'après, j'ai eu des... une occasion de m'expliquer un peu, de dire un peu ce que c'était la musicothérapie au cadre.
Ouais.
Mais c'est vrai que le personnel soignant, quand je leur ai dit, j'ai quand même eu droit à... Ah, mais attendez, on vous prend beaucoup plus au sérieux maintenant.
Ah, d'accord. Ouais.
Parce qu'en fait, on est un peu vu comme des troubadours.
Ouais.
Au début, parce que même aux résidents, ils n'ont pas expliqué ce que c'était la musicothérapie.
Non, ils ont
quand je suis arrivée, ils m'ont demandé si j'étais aumônière et si j'allais chanter des chants. Quoi. Donc, de trouver sa place, tout en respectant aussi ce que la structure veut, c'est pas si évident que ça. Enfin, en tout cas, je parle pour l'EHPAD.
Bon, enfin, en attendant, Alban, vous avez 26 ans, c'est vous l'avenir. Hein.
Oui, c'est vrai. Oui.
Donc, voilà. Pablo, vous, vous n'êtes pas musicothérapeute à la base, vous travaillez à l'EHPAD des Rosiers, bon, vous êtes passionné de ces sujets-là, mais quand il a, je sais pas, vous êtes arrivé, à un moment donné, vous avez expliqué, tiens, on va faire ça... On va pratiquer la musique, on va servir la musicothérapie. Et pareil, vous avez été reçu comme Alban. Vas-y, on n'est pas là pour un concert ou...
C'est différent parce que je rejoins Alban, hein, musicothérapeute. Généralement, il y a beaucoup d'ignorance encore.
Ouais, ça.
Si tu dis que tu es psychologue, c'est notre approche, évidemment.
Oui.
Non par contre, ce sont les familles d'abord. L'équipe soignante, c'est tout à fait ça. Ils ne se comprennent pas, mais ils ne se demandent pas non plus. Tout le monde est ami. Les cadres, généralement, ça se passe... bien, ça prend.
D'accord.
Par contre, la famille. La famille, d'abord, il était rare en disant mais ce monsieur espagnol me parle de quoi ? Très méfiant. Et quand ils commencent à voir qu'il y a des résultats derrière, ils se disent d'accord, je comprends. Parce qu'avant, ma maman, elle mangeait des choses non comestibles, elle mangeait d'encre, d'un stylo, elle parlait à l'envers pour dire voiture, elle disait toivour. Et après avoir fait une thérapie très concrète avec 4 phases différentes, avec la même stimulation tous les jours à la même heure, on voit que notre proche commence à se réhabiliter ou à se rencontrer avec lui-même, alors oui. Mais d'abord, la famille, plutôt.
Parce que
généralement, ils sont habitués à notre sous-type de psychologie, non, de dire, je vais parler avec elle. Non, elle ne peut pas répondre. Vous pouvez parler avec elle 40 fois d'affilée, elle ne va pas répondre. Il faut trouver un allié. Et dans ce cas, la musique, la lumière, la musique, d'éléments naturels, on va dire. Mmh. Ça fait, c'est des, la famille, généralement, sont résistantes, mais après, ils s'acceptent bien.
Oui. C'est intéressant parce que les familles, par exemple, c'est vraiment de, très précieux de pouvoir rencontrer les familles. D'ailleurs, moi, je suis un fervent défenseur et j'arrête pas de marteler avec ça sur le projet de soins individualisé, mais surtout qu'il y ait une, il pourrait y avoir une fiche dans des structures où il y a des personnes âgées, où on aurait des renseignements musicaux en disant, mais ce monsieur, il adorait l'accordéon, cette dame, elle adorait le chant, une telle, un tel. Un jour, je vois une mamie, il découvre au bout de 3 ans qu'elle sort, elle a des gros médicaments pour l'angoisse, elle est super sensible au violoncelle, et sur un morceau de Pachelbel, quoi, elle se met en transe tellement ça l'apaise. Et là, d'un coup, il dit, ah, mais on ne le savait pas, ça fait 3 ans qu'elle est là. Si à un moment donné, on prenait 2 minutes pour dire, pour rencontrer, bonjour Alban, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Je veux dire, les gens, ils disent, ouais, j'adore la trompette, l'accordéon, le piano. Mais voilà, mais il faut le faire, ce travail.
Il y a encore du boulot, ouais, apparemment.
Il y a beaucoup de travail.
Beaucoup de travail. Bon, bah, enfin, ça sera au Alban, avec ses 26 ans, de longues années devant elle pour faire passer le message. Pareil, Pablo, il est tout jeune aussi, hein, il a 27. Ou 28 ans, ouais.
40.
40, ah bah d'accord, bah il fait pas.
Merci.
Ça conserve. Bon,
je vais pas venir plus souvent.
Quand vous voulez, les bienvenus. Je vous remercie beaucoup, en tous les cas, effectivement, d'être venu dans nos studios pour cette émission Euterpe 12, Invite Sémus sur CFM Rodez, puisque vous êtes très très pris. Et vous travaillez, bon, à Rignac, c'est pas loin, mais enfin, c'est pas la porte à côté. Alban, par Mons et par Vaud, à travers le département, un petit peu partout. Donc merci beaucoup d'avoir consacré un petit peu de temps à Jean-François et à CFM Rodez. Et merci pour tout ce que vous nous avez appris dans cette émission.
Merci,
je vous souhaite une bonne continuation, Alban. Bon courage, faut pas lâcher le morceau.
Merci.
Travaillez-vous point fort, comme dirait Pablo.
Hein.
Pablo, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Vous allez retrouver Jean-François, vous continuez de travailler ensemble à Rignac.
Mardi,
ah bah d'accord.
Mardi.
Voilà, même reconventionné, on va travailler encore une année de plus l'an prochain.
Voilà, ça me fait plaisir.
Juste avant ma vraie retraite, ça sera Pablo, ça sera quelqu'un avec qui je cheminerai jusqu'à ce que j'arrête des activités.
C'est un vrai plaisir de travailler avec Jean-François, franchement.
Je sais. Moi, je travaille pour d'autres raisons avec lui, mais je partage ce point de vue. On va se quitter en musique comme à chacun des numéros. Jean-François, alors après le cadeau à Alban, le cadeau à Pablo. Là, c'est un cadeau à tout ce que tu
fais. Alors, j'ai envie de faire un cadeau, en fait, à toutes les personnes que je croise ici et là. Parce que là, c'est un vieux cadeau que j'ai trouvé dans ma malle musicale. Et c'est une valse que j'avais composée avec des résidents d'une structure il y a 10 ans.
Ah ouais.
Pour faire la bande son d'un film où on voyait ce qu'ils font au niveau des ateliers dits thérapeutiques. Et c'est une composition musicale, c'est une co-composition musicale avec des résidents, en fait. Ils m'ont chanté des bouts de mélodie et moi j'ai transcrit ça, j'ai fait quelque chose de musical.
Et ben merci beaucoup à Jean-François. On t'écoute. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Terpe 12 Invite Sémus sur CFM Rodez. Merci Jean-François, merci Alban.
Merci, merci à vous.
Et merci Pablo.
Merci beaucoup. Thank you.